Cours de philosophie éthique par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeudard, le 9 mars 1994.
Après la vertu de tempérance, qui est la vertu qui, de fait, s'enracine le plus dans notre corps humain. Voyez, l'enracinement fondamental de la raison, de la prudence dans notre corps humain se fait par la vertu de tempérance, avec la ramification tempérance et chasteté, les deux grands aspects de la tempérance. Et point d'interrogation par rapport à l'esprit de virginité. Parce que est-ce que l'esprit de virginité, ce n'est pas déjà le problème de la morale religieuse? On le reverra en éthique religieuse. Je voudrais maintenant, puisque c'est bon, de poser au moins le problème. Tant qu'il y a très longtemps qu'on n'a pas fait de philosophie politique.
Et je crois que c'est
sur un amour d'amitié. Et le couple est le fondement de la politique. D'une politique philosophique humaine. Oui, la politique n'est pas uniquement quelque chose de conventionnel. On fait ce qu'on veut. Pas du tout. On ne fait pas ce qu'on veut de l'homme. On ne fait pas ce qu'on veut de la politique. Et si on croit faire ce qu'on veut de la politique, alors c'est la politique machiavélique. Machiavel fait ce qu'il veut de la politique. Et je crains qu'en Amérique, on fait ce qu'on veut de la politique. Et en Europe, on est toujours contaminé. Ensuite, et qu'actuellement, on est en train de croire qu'on peut faire ce qu'on veut de la politique. Alors ça vous retombe après avec une force et une violence étonnante. Parce que comme il y a des refoulements individuels, il y a des refoulements politiques, communautaires, étant donné que la communauté humaine est naturelle. Alors si on veut faire de la communauté humaine quelque chose d'artificiel, conventionnel, le naturel implique alors à ce moment-là un refoulement terrible. Et il faudrait regarder ce que peut être le refoulement communautaire et comprendre ce qui nous prépare pour demain. Ce serait là un problème, je crois, très intéressant à voir et très important à voir. Alors, voyez comment se pose le problème. Et c'est toujours cela que doit regarder le philosophe en premier lieu. Quel est le fondement d'une philosophie politique ? Nous nous sommes posé la question, quel est le fondement d'une éthique philosophique ? Et nous avons dit qu'il nous semblait que ce soit l'amour d'amitié. Que c'est le seul fondement qui me semble. Ça reste toujours à titre de recherche. C'est pas une conclusion pour toutes. Il n'y a jamais de conclusion une fois pour toutes, surtout dans ce domaine-là. On est dans le domaine pratique. Et le domaine pratique, par le fait même, est beaucoup moins lumineux que le domaine spéculatif. C'est-à-dire que toute la philosophie présuppose le jugement d'existence. Ça, je peux vous certifier que ça ne peut pas être autrement. Autrement, on tombe dans les idéologies du possible. Mais dire que l'éthique a comme fondement propre l'amour d'amitié, je comprends très bien qu'il y a des tas de problèmes qui se posent. Et regardez toujours, parce que c'est intéressant, quand vous avez un petit peu de temps, le livre de Frédéric Lenoir sur l'éveil éthique aujourd'hui. Et cette recherche qu'il a faite, c'est un livre de topics historiques intéressants. Parce que vous voyez toute la gamme. Est-ce que l'éthique repose sur l'expérience de la responsabilité ? Est-ce que l'éthique repose sur le point de vue de la liberté ? Est-ce que l'éthique repose sur l'impérium catégorique de Kant ? Je dois faire ça. L'obligation. Le devoir. On doit se poser toujours ces questions-là, tout le temps. Il ne faut jamais, jamais conclure en disant « je ne regarde plus le reste ». Non. Étant donné la difficulté du problème. Et la difficulté du problème, elle est facile à comprendre, étant donné la variété de ses positions. Alors je me pose la question, quel est le fondement d'une philosophie politique ? C'est-à-dire d'une politique humaine. Parce que ça revient au même, hein, d'une politique humaine. les avis politiques, en précisant qu'il s'agit non pas de l'amour d'amitié n'importe lequel, mais de l'amour d'amitié entre l'homme et la femme. Que je ne peux pas fonder une politique sur l'amour d'amitié de l'amour de deux hommes entre eux, de deux femmes entre elles, donc de n'importe quelle espèce de communauté. C'est typiquement une communauté naturelle sur laquelle repose la politique. C'est très très important ça. C'est la question, j'allais dire, la plus brûlante aujourd'hui. Et donc, il faut tous y réfléchir. Même si on a très peu réfléchi sur la politique, on doit y réfléchir. On n'a pas le droit de pas y réfléchir aujourd'hui. Parce que ces questions-là vous seront posées. Et vous n'avez pas le droit de répondre n'importe quoi. Et il y a une philosophie politique à laquelle on doit être très très attentif. Vous voyez, au point de vue philosophique, je prends la philosophie d'éthique personnelle parce qu'elle est première et que je ne peux pas comprendre le problème de la philosophie politique s'il n'y a pas d'abord ça. Mais c'est très important. Alors, est-ce que c'est l'amour d'amitié? Est-ce que c'est la justice? Est-ce que ce sont les deux? Ce qui serait tout à fait normal que la politique a comme deux fondements, l'un par rapport à l'autre, étant donné que l'éthique humaine, personnelle, est quelque chose de plus simple. Donc elle a un seul fondement, l'amour d'amitié. Et non pas la justice. Tandis qu'au contraire, la politique a deux fondements, l'amour d'amitié, pas n'importe lequel, celui de l'homme et de la femme, capable de fonder une famille, le couple. Alors à ce moment-là, il faudrait exclure tous les autres couples. Et si c'est vraiment l'amour d'amitié de l'homme et de la femme fondant une famille qui est le fondement de la politique, le devoir primordial d'un État, de toute communauté politique, est de défendre la famille, puisque c'est le fondement. Et si c'est pas le fondement, ah très bien, on peut élargir, on peut faire un fondement beaucoup plus large, c'est toute communauté, n'importe laquelle. Alors, est-ce que, en disant ça, c'est oublier philosophie politique. Histoire dans le sens de topic historique de la philosophie politique. C'est nécessaire. Si on veut épuiser le sujet. C'est intéressant de voir la première philosophie politique. La première, Platon. La République. C'est un monument. C'est un monument qu'il faut avoir lu une fois au moins dans sa vie. Je crois qu'on doit avoir lu La République d'Aristote de Platon. Pour pouvoir lire ensuite La République d'Aristote. La politique d'Aristote. Mais c'est intéressant, République politique d'Aristote. Aristote se situe au-delà de la République et se situe au niveau politique. Pour Aristote, la République est un système politique. Pour Platon, c'est la politique. Et le platonisme conduit toujours à ça. Il ne peut conduire qu'à ça. Donc il faut ces deux grands politiques. On doit les avoir lus pour sa formation philosophique, pas en première année, vous encombrez pas trop, mais en troisième année, ou en quatrième année, ou même après. C'est comme en théologie, les deux cités de Saint-Augustin, il faut avoir lu ça, c'est nécessaire, et même l'avoir lu et relu. Alors, je ne peux pas discuter cela entièrement, mais je peux quand même préciser. Il y a une expérience politique fondamentale. Et l'expérience politique fondamentale repose sur la communauté fondamentale. Si l'amour d'amitié est le point de départ de l'éthique personnelle, l'amour d'amitié implique tout de suite la dualité. Et donc, cette éthique personnelle implique en son sein, en elle-même et par elle-même, une politique. Ce qui fait comprendre comment, historiquement, je ne peux pas séparer, je dois distinguer et pas séparer l'éthique personnelle et l'éthique politique. Je ne peux pas les séparer. Mais je les distingue. Et c'est intéressant de voir qu'il y a la même expérience pour l'éthique fondamentale, humaine, personnelle. Et l'éthique politique. Parce que s'il y a un fondement différent, alors on pourrait peut-être les séparer. Si au contraire un seul fondement, radicalement le même, avec simplement que dans l'amour d'amitié, il peut y avoir une amitié qui n'est pas l'amitié conjugale, qui est l'amitié humaine, ce qui permet de comprendre qu'il peut y avoir une éthique personnelle qui se développe pour elle-même, avec toutes ses exigences propres. Mais d'autre part, il faut comprendre que l'homme provient d'une famille. Et donc, mon éthique personnelle présuppose une éthique familiale. renaît avec une nouvelle vigueur. Au-delà du point de vue économique, du point de vue fondamentalement philosophique. Est-ce que la philosophie consiste premièrement à connaître l'univers ou à le transformer? Ce que Marx avait très bien dit. Jusque maintenant, la philosophie n'a fait que considérer l'univers. À partir d'aujourd'hui, la philosophie va transformer l'univers. Et donc on considère la transformation de l'univers comme primordiale. Alors vous voyez que c'est assez facile de comprendre que transformer l'univers présuppose que l'univers existe. Je crois. Si transformer l'univers présuppose que l'univers existe, il y a donc quelque chose d'antérieur à la transformation, la connaissance de l'univers. Mais je peux très bien ne pas vouloir le regarder. Donc vous construisez toute votre philosophie sur une volonté de ne pas regarder ce qui est antérieur à la transformation de l'univers. Et vous mettez la transformation de l'univers comme première. Alors, ou vous êtes un aveugle ou un borgne qui va tout prix ne pas considérer qu'est avant. Alors, vous voulez cela et vous êtes conscient de cela. Et vous mettez l'absolu là où il n'y a que le relatif. Et vous avancez dans ce domaine, en oubliant le point de départ, une volonté expresse d'oublier, pour ne regarder que ce que l'homme fait comme étant premier. Et on est, il faut bien se dire, on est à ce moment-là, aujourd'hui, tout le monde, du moins tout le monde, la plupart des hommes pensent comme ça. C'est l'humain, ce que l'homme fait, qui est premier. Ce qui est antérieur, c'est du pré-philosophique, comme on dit du préhistorique. C'est intéressant, mais ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, ce qui est efficace, c'est ce que l'homme fait. Et on ne regarde que le point de vue efficace. Et il y a cette vision qui de fait, l'emporte aujourd'hui. Alors à partir de là, on comprend très bien que on construit un aspect politique à partir de ce que l'homme est capable de transformer. On est en face d'une politique marxiste. Il faut appeler les choses par leur nom. C'est Marx qui est le premier à faire ça. Et avant Marx, Platon. Et alors on a la politique qui repose sur l'individu. Alors le couple famille ou le couple homosexuel, ça importe peu. Débrouillez-vous. Qu'est-ce qui est le plus efficace? Le critère est un critère d'efficacité. Et uniquement efficacité au plan politique. C'est peut-être beaucoup plus efficace de construire un monde comme cela. Et considérer que la famille, c'est un vieux reste religieux, mythique, qui demande d'être dépassé. Ceci, c'est la pensée de beaucoup aujourd'hui. Quand certaines lois au Parlement passent si facilement, ça prouve qu'on en est là. Avec des gens sincèrement honnêtes, mais complètement à côté de la vérité. Mais c'est toujours au niveau politique que les choses se manifestent en grand. C'est ce qu'il y a d'exact dans ce que disait Platon. La justice se manifeste en premier lieu au plan politique, plus que dans l'individu. Alors je dirais, les Parce que dans l'individu, il y a toujours quand même une ressource naturelle plus profonde, plus enracinée. On a plus de peine de falsifier complètement l'individu que de falsifier le point de vue politique. La matière politique se falsifie plus facilement. Et donc plus facilement, on manifeste la priorité du faturé sur la durée au point de vue politique. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est que dès que vous essayez de poser le problème du fondement politique, vous voyez toutes les erreurs en grand. Et c'est manifesté admirablement dans la République de Platon. Ça prend un autre nom, une autre manière aujourd'hui, mais c'est la même réalité. Vous voyez, quand Platon prend la communauté des femmes, donc la destruction du mariage, la destruction de la famille, ben oui, c'est dit dans Platon. D'où l'école, la formation doit être au niveau de l'État et c'est plus la famille. Et la réaction profonde d'Aristote, mais véhémente, de dire Platon manque d'expérience. On a envie de leur dire ça à nos chers parlementaires. Vous manquez d'expérience et vous êtes dans une idéologie. Et vous voyez pas que cette idéologie, elle est manifestée en grand dans Marx, dans Platon. Et vous supprimez complètement le point de vue de la vraie finalité de l'homme. C'est le conditionnement humain qui est primordial. Et donc, aujourd'hui, vous voyez, ce point de départ de la naissance du politique devient quelque chose de capital pour nous. Nous devons y réfléchir. Et au fond, ça se ramène vraiment à Aristote, Platon, c'est ça qui est très extraordinaire. Pour Platon, la politique repose sur l'individu. Pour Aristote, la famille. Pour le marxisme, la politique repose sur l'individu, la praxis. Et pour le chrétien, je dis le chrétien, après on dira le philosophe, pour le chrétien, la famille, la politique repose sur la famille. C'est lui l'initiale, année de la famille. Et l'année de la famille, c'est justement de réfléchir comment, au point de vue chrétien, la politique repose sur la famille. Et alors on se pose ensuite le problème, est-ce que ce que là on dit au point de vue chrétien, est-ce que le philosophe, l'homme, tout court, ne doit-il pas dire la même chose? Mais je peux très bien prendre le problème comme ça. C'est pas apologétique, c'est la vérité. Au nom de la sincérité, la politique repose sur le faturé, sur l'individu, sur l'efficacité. Au nom de la vérité, ça repose sur la famille. Alors, il y a donc là un problème essentiel pour nous. Au plan chrétien, c'est facile à comprendre, c'est tout l'enseignement de l'Église. Au plan philosophique, ah, extrêmement intéressant. Alors, vous comprenez que on touche tout de suite au problème philosophique de la procréation. Si la procréation peut voit plus. L'Église est obligée de dire ça. L'Église ne devrait pas être obligée de le dire. Les hommes devraient être suffisamment intelligents pour dire mais non, attention, attention. Mais non. Les hommes sont emportés par une idéologie. L'idéologie positiviste liée à l'idéologie de Lénine et fondamentalement de Marx. On est emporté vers cela. Et alors, on ne voit plus. Et parce qu'on ne voit plus, l'Église intervient. Dans un domaine où l'intelligence humaine devrait suffire. Ça fait partie des préambula fidei. De considérer que le couple est la communauté naturelle fondamentale. Et que c'est le couple qui est le fondement de la politique. L'homme et la femme fondant un foyer avec la procréation et l'éducation de l'enfant. Alors vous voyez sur quoi porte au plan philosophique le fondement naturel de la communauté politique. Cela revient en définitive à la conception que vous faites de la procréation. En définitive, ça revient à cela. Alors, c'est pas étonnant, vous voyez, que toutes les luttes d'aujourd'hui tournent autour de ce problème. Et je crois que c'est juste, que c'est vraiment ce problème-là qui est fondamental, qu'Aristote ne pouvait pas poser, que Platon ne pouvait pas poser, et qui se pose aujourd'hui de façon très nette. Et vous avez deux positions éthiques. La position éthique de l'Église et la position éthique de ceux qui vivent de l'idéologie positiviste. D'une idéologie platonicienne. Alors, l'idéologie positiviste, puisque ça réussit, ça libère la femme, ça libère l'homme de cet engagement du couple. Et l'homme pourra choisir l'enfant qu'il veut. C'est beaucoup mieux que d'accepter des enfants qui vous sont donnés naturellement et que vous n'avez pas voulu. Tandis que là, vous les aurez voulu. Vous aurez choisi. Ils auront des yeux bleus. Ou des yeux noirs. Ils auront... Vous l'avez choisi. Et donc, par le fait même, l'aspect politique repose sur un choix humain. Et c'est beaucoup plus humain que l'aspect naturel. Vous voyez, le plaidoyer du fondement de la politique au point de vue humain. Est-ce que c'est ce qui est choisi librement est toujours ce qu'il y a de plus vrai? Est-ce que le choix humain est comme Dieu, comme le choix de Dieu, créateur? Si le choix humain est créateur, alors très bien. Si le choix humain présuppose la nature, alors c'est la nature qui est avant le choix. Et vouloir faire reposer tout sur le choix humain, c'est une erreur. Alors, réfléchissez là-dessus, vous comprenez, on ne va pas réfléchir sans cette.